Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
It's a new radio.
Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je ne suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf? Bah, pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabanon de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Sauf à être un masochiste absolu, on ne vient pas au Québec pour souffrir. Et comme on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il serait facile d'en déduire que, bon, bah, l'argent, la thune, la caillasse, tout ça, on s'en tamponne joyeusement le coquillard. Bah, ce serait facile, sauf que c'est pas vrai. Le Québec a beau offrir des paysages magnifiques et les Québécois être d'une gentillesse abyssale, vous ne paierez pas vos factures avec des rayons de soleil ou des sourires. Cononie, vous êtes au Québec, pas au pays de oui-oui. Et pour être plus précis d'ailleurs, vous êtes en Amérique du Nord. Et s'il y a bien un sujet qui va vite vous le rappeler, c'est celui du rapport à l'argent. Les prix hors taxes, les prix sans le service compris. Et puis après tout, rien que le nom de la monnaie locale, le dollar, bah ça vous envoie tout de suite dans un autre monde. Mais dans lequel en fait? Ah bah, voilà une bonne question. Pierre-Olivier Zappa est journaliste et chaque soir sur TVA, enfin, j'allais dire à TVA, mais vous voyez, je suis en pleine phase de québécoisation très intense et il y a des petits mots comme ça. Donc chaque soir sur TVA, il présente À vos affaires, qui est une émission sur l'actualité économique du quotidien. C'est donc la personne idéale pour nous expliquer les rouages de cet animal un peu à part, qui est le Québécus economicus. Salut Pierre-Olivier.
Bonjour Jean-Michel.
Ça va bien?
Super, et toi?
Oh bah super bien, très content en plus parce que alors, cette émission, elle est tellement ancrée dans le quotidien des gens, ceux qui nous écoutent pour la plupart soit viennent d'arriver au Québec et ont pris tout ça de plein fouet, soit ils ambitionnent de venir et ils vont apprendre plein de trucs, mais avant de parler économie,
oui.
Je voudrais juste faire une petite aparté, parce que récemment, il y a eu une journaliste, une grande journaliste québécoise qui a été nommée à la direction de la communication du Canadien de Montréal, la grande équipe de hockey. Et à cette occasion, j'ai découvert une archive télé avec un jeune Pierre-Olivier Z qui devait avoir à peine 12 ans à la télévision. Ça remonte à loin, ça?
Ah oui, mais j'ai commencé à 12 ans, j'ai animé ma première émission et à l'époque, je caressais le rêve, Jean-Michel, d'être journaliste sportif. J'ai donc en quelque sorte raté ma vocation parce que aujourd'hui, je suis journaliste économique. Mais oui, quel beau souvenir avec Chantal Maccabé qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une journaliste sportive légendaire au Québec et qui récemment a accepté le poste de responsable des communications d'une institution, le Canadien de Montréal. Et à 12 ans, j'avais remporté un concours et j'avais animé un bulletin sportif avec elle, un concours de la semaine de relâche. Ça m'a donné la piqûre très tôt.
Ah bah oui, c'est sûr. Alors, moi, ça m'a mis une belle baffe, hein, parce que alors, j'étais tout content. Moi, j'ai commencé la radio dans ma petite radio locale dans le fin fond de la Charente. J'avais 13 ans. Alors, j'étais tout content. 13 ans, j'ai commencé radio locale. Et v'là-t-il pas que j'arrive, il y a un jeune homme de 12 ans qui fait carrément sa première émission de télé à 12 ans. C'est le Québec. On est dans un autre monde ici. Tout est possible. C'est assez à l'image d'ailleurs de la partie économique. On est en Amérique du Nord, après tout.
T'as raison, parce que le rêve, on a l'image de l'Amérique, le rêve américain, et je pense qu'il y a le rêve québécois aussi. Les gens qui découvrent le Québec voient que c'est une terre de possible comme les États-Unis, mais avec un côté européen. Et je pense que ça, d'emblée, je vais déclarer mes intérêts, mes conflits d'intérêts, Jean-Michel. Ma conjointe est née à Paris. Toute sa famille de France, sa famille proche, là, parents, oncles, tantes, grands-parents, ont immigré au Québec. Il y a de cela plusieurs décennies, mais c'est en gang qu'ils sont arrivés au Québec. Alors, j'ai une expérience de proximité avec des Français qui ont choisi le Québec et qui l'ont fait parce que le Québec, c'était une terre de possible.
Et c'est exactement ça. C'est presque la... Alors, on va faire l'émission quand même, mais c'est presque la conclusion. On est vraiment en Amérique du Nord. C'est l'American Dream. Vrai qu'il y a... En Corée de France, même si ça a changé, on idéalise entre guillemets la liberté d'entreprendre nord-américaine. On a clairement ça au Québec, mais malgré tout, avec cette petite touche quand même francophone et pas que par la langue, j'allais dire culturelle, ne serait-ce que dans la manière de faire. Et ça se retrouve à plein de choses. Bah, c'est presque le territoire idéal pour toute personne qui a envie un peu d'entreprendre, qui vient de l'Europe latine comme nous. Quitte à faire le grand saut, autant passer par le Québec, quand même, c'est le changement est moins rude.
Oui, et je pense que les gens qui s'installent au Québec, qui viennent de partout à travers le monde, le font justement parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir accomplir des choses qu'ils ne pourraient pas nécessairement accomplir à la maison. Au Québec, on a des possibilités qui s'offrent à nous parce que peut-être que la société est un peu moins hiérarchisée par rapport à ailleurs. Tu sais, le rapport avec l'autorité, je dis un peu, puis je te vois sourire, un peu beaucoup, parce que j'ai l'impression, puis c'est là que l'économie rencontre la sociologie, c'est que notre organisation du travail, puis notre organisation en général de la société et repose beaucoup moins sur des fondements hiérarchiques par rapport à ce qu'on peut retrouver dans certains pays européens comme la France. Au Québec, un jeune peut rapidement gravir les échelons, peut accéder à des postes peut-être plus haut dans la hiérarchie d'une entreprise en démontrant ses talents, sa bonne volonté et son travail, quelque chose qu'il ferait peut-être ailleurs, mais qu'il ferait sur plusieurs années, là.
Et c'est vrai que depuis, l'une des choses qui m'a marqué depuis que je suis arrivé et que je me suis un petit peu plus, on va dire, je suis un peu plus rentré dans la vie économique et dans la société québécoise. En France, il y a quand même une très forte dynamique entrepreneuriale en ce moment. Mais par contre, elle est très, j'allais dire, franco-française. Et ici, l'une des choses qui m'a choqué, qui m'a tout de suite interpellé, c'est de voir que dès que je m'intéresse à une société, à des entrepreneurs, à des choses, je constate que pour beaucoup, ce sont des immigrants, alors qui viennent pas tous de France, hein, c'est pas une invasion, ça vient de partout, aussi d'ailleurs presque du Canada, je vais dire anglophone, c'est une terre où les gens qui arrivent se disent là c'est possible.
Et un bon exemple, puis je vais te donner un scoop, c'est une entrevue que je vais faire dans quelques semaines avec un entrepreneur, peut-être connais-tu Econoplus, Jean-Michel,
oui,
c'est une chaîne qui vend des électroménagers au Québec, qui sont d'occasion ou du moins dont l'apparence est un peu ternie là, tu sais, on parle d'électroménagers à rabais. Et le président de ce géant-là, parce que c'est devenu une très grande entreprise avec plusieurs succursales, c'est quelqu'un qui a immigré de la Turquie. Et cet homme-là travaillait comme livreur d'électroménager pour une chaîne très connue. Un jour, en livrant des électroménagers, il s'est dit, bon, je récupère d'anciens électroménagers chez les clients et qu'est-ce qu'on fait avec ces électroménagers-là? On les envoie à la casse. Alors moi, je vais avoir une idée, je vais me partir une entreprise où on recycle ces électros-là, on les reconditionne et on les revend. Et c'est devenu un véritable géant avec des tentacules partout au Québec, dans les provinces de l'Atlantique, en Ontario, et il l'a réalisé au Québec en l'espace de quelques années. Donc, cet immigrant turc qui avait une connaissance très approximative du français, qui a appris le français, qui a appris rapidement les codes de la société québécoise, est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui génère des millions de dollars de revenus chaque année. Je trouve que c'est un exemple qui me vient en tête de façon instinctive là, lorsqu'on parle des possibilités au Québec.
Je me souhaite le même succès, mais anecdote pour anecdote, moi j'ai eu ma propre société pendant 10 ans en France, pendant presque 10 ans, une agence de communication. Et puis bon, on va dire revers de fortune, il a fallu la fermer, ce qui a été assez douloureux à plein de niveaux, pas que financier, à niveau humain. Et je pensais pas du tout replonger dans l'entrepreneuriat un jour, même si je sentais que j'avais la fibre, pas à ce point-là, en tout cas. Eh ben, il semblerait que je sois pas loin d'y replonger quand même, parce que ici, il y a presque une ambiance. Voilà. Il y a presque une ambiance qui te dit, vas-y.
Et on arrive, je pense, à un stade ou en tout cas un moment où au Québec, il n'y a jamais eu autant de jeunes entrepreneurs déterminés à faire des affaires. Pendant longtemps, on a été une société dirigée par le clergé, et où l'Église avait une place prépondérante, et ce jusqu'à la Révolution tranquille dans les années 60 au Québec. Et cet héritage judéo-chrétien a eu des impacts et s'est fait ressentir pendant des décennies le tabou de l'argent au Québec. Alors, si tu faisais de l'argent, t'étais un peu mal vu. Tu sais, il y a encore à ce jour des chefs d'entreprise qui ont une Tesla ou une Mercedes à la maison, mais vont venir au travail en Toyota Corolla simplement parce qu'ils ne veulent pas heurter la sensibilité de certains travailleurs. Ça existe encore au Québec, de moins en moins. Ce tabou du succès est de moins en moins vrai. Les jeunes ont de grandes ambitions, sont au Québec, mais voient la planète comme terrain de jeu. Je pense en France aussi, il y a un beau momentum, tu as la French Tech, des jeunes entrepreneurs qui émergent, qui fascinent le monde, mais au Québec, on le sent, puis je pense qu'on le sent plus que jamais. La pandémie a aussi poussé pas mal de gens à réfléchir à leur avenir et à se dire j'ai pris goût au travail à la maison ou au travail autonome, le fait d'être moins supervisé, tiens, je vais me lancer en affaires. Et il y a de la place, il y a encore beaucoup de place, c'est ce qui est magnifique.
Il y a de la place et effectivement, moi pour ne voir ça que depuis mon arrivée, depuis 18 mois, donc je suis toujours un peu dans la comparaison forcément, et c'est vrai que le rapport à la réussite me semble quand même malgré tout pas le même. C'est vrai que c'est en train de beaucoup changer en France. La French Tech fait énormément et tout. Mais ceci dit, dès qu'on a voir quelqu'un qui va... On aime bien les gens qui réussissent, mais quand ils deviennent très gros et qu'ils deviennent de grands leaders et tout, c'est en gros, quand il y a trop d'argent en jeu, ça commence à devenir suspect.
Il y a encore cette mentalité-là également au Québec, mais de moins en moins.
Quand je regarde ton émission ou même d'autres ou que j'en parle avec des amis et tout, à chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui a réussi, c'est il a réussi quoi.
Et les belles histoires, les histoires à succès, il y en a au Québec. Puis dans l'émission que j'anime, un des devoirs que je me fais, c'est de les mettre en lumière, puis de mettre en lumière des histoires à succès qui sont à plusieurs échelles, à différents degrés. Il y a des gens qui, dans leur sous-sol, démarrent des belles entreprises qui fonctionnent bien, qui font la différence. et ils font le souligner. Mais dans le contexte économique actuel, il y a une autre donnée qui joue en la faveur des immigrants, c'est qu'ils arrivent un peu comme des sauveurs en ce moment. Parce que les besoins de main-d'œuvre sont tels, et ce, dans tous les secteurs de l'économie, que les gens qui viennent de l'extérieur arrivent comme des sauveurs, littéralement. Il y a des entreprises en ce moment qui refusent des contrats, des chefs d'entreprise qui font des 80 heures semaine parce que il manque d'employés. Alors, quand des ressources de l'extérieur arrivent, c'est un peu c'est un peu comme le Père Noël qui arrive, là, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un contexte assez particulier. Alors la pandémie a bousculé à peu près toutes les économies. Toutes les économies sont en phase de rebond, mais il faut cicatriser et les plaies sont parfois béantes. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ici on le ressent beaucoup, hein, le manque de main d'œuvre. Franchement, venez au Québec, prenez votre voiture, vous faites, je sais pas, 30 km sur une autoroute, n'importe laquelle, hein, et vous allez voir, dès que vous passez près d'un bâtiment, c'est des affiches géantes à côté. On embauche, sans CV, sans rien. Voilà. Ça, c'est sûr.
Et dans bien des secteurs, ce qui est frappant, c'est que vous avez même pas besoin d'une entrevue d'embauche, Jean-Michel. Il y a des gens, vous allez envoyer votre CV, ils vont vous dire c'est beau, quand êtes-vous prêt pour commencer? Ce soir, parfait, vous commencez à 8 heures ce soir. Quand des restaurants, des chaînes comme McDonald's offrent des bonus à l'embauche de 1 000 $, je pense que ça en dit long sur les besoins de main-d'œuvre au Québec.
Ouais, besoin de main-d'œuvre, et puis OK, on peut venir au Québec, on peut entreprendre, on peut y trouver du boulot parce qu'effectivement il y a ce besoin. Mais dans le quotidien maintenant, c'est quoi à peu près le niveau de vie qu'on peut attendre quand on est au Québec? On parle d'abord. Évidemment, je regarde ton émission et je suis pas mal les informations. Évidemment, on parle énormément d'inflation. En ce moment, c'est un des sujets majeurs. Il y a eu la bulle immobilière. Enfin, je sais pas si on peut encore la qualifier de bulle parce que ça semble ne jamais s'arrêter. Le prix de l'essence. Alors ça, le prix de l'essence au Québec, on va s'y arrêter 2 secondes. C'est quoi le niveau de vie, grosso modo, du...
Je pense que en ce moment, avec le phénomène de l'inflation qui n'épargne aucune société, du moins en Occident, les gens sentent que la vie coûte de plus en plus cher. Mais en même temps, au Québec, je pense qu'on tend peut-être à se plaindre le ventre plein. C'est-à-dire que c'est une expression, ça, au Québec, qui dit qu'on est quand même chanceux et on est quand même privilégié parce que je prends l'exemple, Jean-Michel, du coût de l'énergie, hein. Nous, on a Hydro-Québec, notre énergie est verte, elle est propre et surtout, elle coûte pas mal moins cher qu'ailleurs en Amérique du Nord ou ailleurs à travers le monde, parce que c'est une société d'État, un peu comme EDF, hein, si je
me trompe. Oui, c'est ça, tout à fait.
Mais comme on produit, nous, notre électricité avec les rivières dans le nord du Québec, ça nous coûte beaucoup moins cher. Lorsqu'on regarde le prix de l'épicerie, vrai que ça coûte de plus en plus cher, mais il y a encore moyen de s'en sortir. Le prix du logement et des maisons, on se plaint beaucoup de ce prix-là, mais ça n'a rien à voir avec les prix que vous allez payer dans des centres-villes comme celui de Paris, de Berlin ou encore même de Toronto, qui est à quelques heures de route de Montréal en Ontario. Donc, vrai que bien des Québécois sentent que l'immobilier n'est plus accessible et que le prix de certaines maisons avoisine, bon, on peut parler entre 300 000 $ en moyenne dans les régions du Québec et ça monte jusqu'à 450 dans la région de Montréal. Donc, oui, ça coûte cher se loger, mais je dirais que si on se compare ailleurs à travers le monde, ça demeure accessible. Et donc, quelqu'un qui va gagner un revenu au-dessus de 20 $ de l'heure, ce qui représente la majorité des salaires, peut bien vivre. Est-ce que cette personne-là va se payer des extravagances? Peut-être pas. Mais la vie au Québec coûte moins cher qu'ailleurs en Amérique du Nord et en Europe.
Et c'est vrai qu'il y a peut-être une des choses qui change aussi la donne là-dessus sur cette capacité à absorber l'inflation, c'est justement cette tension très forte sur le marché de l'emploi où il y a des besoins de partout. Donc c'est plutôt les employeurs qui se battent pour essayer d'avoir des employés. Donc le rapport de force est changé et le rapport de force il est aussi facilité par le fait que on est sur un marché du travail assez souple. Voilà, il n'y a pas les rigidités qu'on peut connaître en France ici. Ça me plaît pas et il se trouve que juste à Port-en-Face, on m'offre 3 $ de plus par heure. j'y vais, j'y suis quasiment immédiatement, sans formalisme, ça change tout.
Ça change tout. Puis en ce moment, tu vois, aujourd'hui, je suis allé en tournage et j'ai diffusé un reportage avec Danny Bonneville, qui est un homme d'affaires au Québec, qui est dans l'industrie des maisons usinées. Et évidemment, lui, bon, emploie dans cette seule usine que j'ai visitée à peu près 200 personnes. Et il me disait, écoute, on a bonifié les salaires de façon substantielle pour garder nos gens, sinon les gens pour $1, $2 de plus vont chez le compétiteur et nous on peut pas se le permettre. Et c'est vrai que c'est cette fidélité des travailleurs québécois à l'égard de leur employeur, c'est beaucoup effrité, c'est un phénomène je pense international mondial, mais c'est particulièrement vrai aujourd'hui alors que les besoins de main-d'œuvre sont énormes. Les travailleurs ont le gros bout du bâton, ont la marge de manœuvre pour négocier et récemment d'ailleurs, j'ai fait une émission sur les tactiques de négociation salariale Jean-Michel et j'ai reçu tellement de courriels de gens qui m'ont dit à la suite de l'émission waouh, j'ai réussi à me faire augmenter de $4 de l'heure, de $5 de l'heure, ça a marché. Mais c'est parce que bien des employeurs n'ont pas en ce moment la marge de manœuvre qui leur permettent de se départir de travailleurs. Et ça, c'est un des facteurs qui, comme partout dans le monde, contribue à l'inflation, les hausses de salaire.
Ah ben oui, forcément. Donc,
le problème demeure quand même qu'au Québec, cette hausse des salaires-là, en ce moment, ne correspond pas à l'inflation. Je pense qu'on est autour de... La hausse du coût de la vie pour 2021 en moyenne, là, c'était autour de 3,6%, puis la hausse des salaires de mémoire, c'est autour de 2,2%. Ça creuse un peu. Donc, tu sais, les gens ont perdu du pouvoir d'achat, mais en même temps, pas tant que ça. Là,
on a parlé de l'inflation du quotidien, on a vite fait parler de l'immobilier, mais ça, c'est vrai que c'est assez mondial. Moi, l'une des choses qui m'a le plus marqué dans cette coût de la vie du quotidien, c'est évidemment l'essence. Alors, non pas que ce soit québécois, où l'essence, elle a à peu près augmenté partout sur la planète. À ceci près, les amis qui nous écoutaient, que c'est pas tout à fait dans les mêmes proportions. Alors, moi, je suis arrivé ici avec une essence effroyablement pas chère par rapport à ce que je connaissais. Et aujourd'hui, elle est pas tout à fait au même prix que celle qu'on peut trouver en Europe, mais on s'y rapproche farouchement. Je sais pas comment dire, mais la versatilité du prix, la
volatilité est énorme.
Ouais, est énorme.
Et il faut dire que probablement que depuis que t'es arrivé, bon,
ça a doublé.
Ça a doublé. Oui, effectivement, parce que bon, il y a évidemment le contexte géopolitique mondial, mais il y a aussi les taxes des gouvernements, les taxes écologiques qui ont augmenté, si bien qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple d'un petit VUS, parce que quand même au Québec, en plus, on conduit des véhicules qui sont souvent plus gros que ouais, qu'en Europe, qu'en France, ben va vous coûter rapidement $70 par plein, $70 canadiens. Et tu vois, moi j'ai acheté mon véhicule, anecdote personnelle, à l'époque où le litre d'essence était à moins $1. Aujourd'hui, il est à $1.70 et je vais me départir de mon véhicule à essence parce que je trouve qu'il consomme beaucoup trop, ça coûte trop cher.
Comme tout le monde, faut prendre un électrique, sauf qu'il y en a pas.
Ben c'est ça, tu vois, il faudra que je sois patient parce que mon électrique, je vais le recevoir à la fin de l'été. Mais tout ça pour dire qu'au Québec, il y a quand même des trucs, tu vois. Moi, je mets de l'essence dans un village lorsque je m'en vais à la campagne. Je ne vais pas le publiciser parce que c'est mon secret.
Heureusement, c'est une antenne après.
c'est à Saint-Norbert, là, Michel. Et à la seule station-service de Saint-Norbert, le prix du litre, curieusement, est souvent 10 cents de moins.
Ah oui,
et le café au lait est gratuit. Et il est très bon. Alors,
ça fait deux super arguments quand même.
Deux super arguments. Ah, il faut le magasiner son essence parce que curieusement, vous êtes à Montréal, vous allez payer un prix. Vous allez sur la rive sud à 5 minutes du pont. Mm-hmm. Vous allez parfois pouvoir économiser jusqu'à 10-15 cents. Et plus vous vous rapprochez de la frontière avec les États-Unis, moins l'essence est chère. Parce que au Canada, au Québec, il y a des gens qui habitent proche de la frontière avec les États-Unis qui, à l'époque où les frontières étaient plus ouvertes, là, la pandémie a mis à mal ça, c'est plus compliqué, mais il y a bien des gens qui allaient aux États-Unis simplement pour mettre de l'essence parce que l'essence est pas mal moins chère. Donc, il y a des gens qui habitaient proche de la frontière, qui allaient faire le plein. Alors, plus on se rapproche de la frontière, plus on a de l'essence à rabais. C'est quand même particulier.
Bon, le coût de l'essence de l'autre côté de la frontière, juste petite précision pour mes amis qui envisageraient d'immigrer, vous pouvez oublier, bon, outre le fait que la frontière en ce moment, elle est franchement compliquée à passer. D'une manière générale, sauf quand vous aurez chopé la citoyenneté canadienne, passer la frontière, c'est, enfin, si vous avez envie de passer à chaque fois une heure au poste de douane à l'aller et retour juste pour faire un plein, bon vous sent, mais je parlais de masochisme au début de l'émission, on est quand même en plein dedans. Et c'est vrai qu'en se rapprochant de la frontière, il y a des astuces, mais c'est vrai, voilà, on n'est pas passé quand même du simple au double, et c'est assez étonnant, et c'est vrai que les voitures consomment plus ici, elles sont souvent plus grosses et accessoirement les distances sont aussi beaucoup plus grandes. Donc c'est voilà, le plein il part vite quoi.
Ça part très vite là. Moi je me surprends à chaque semaine. Je fais des courtes distances. Je vis en ville, je travaille en ville et néanmoins ça me coûte cher d'essence par semaine. Donc il y a des alternatives. Comme le transport, évidemment, le transport en commun qui est à Montréal est très développé, mais dès que vous sortez un peu de Montréal, je trouve que le transport en commun n'est évidemment pas aussi efficace que en région parisienne. On commence à avoir avec nous le REM. Qui serait quoi, Jean-Michel, l'équivalent du RER?
C'est ça, c'est l'équivalent du RER, mais imaginez un RER avec 5 stations.
Voilà. C'est ça, qui est en nez à ses premiers balbutiements. Espérons qu'un jour ce transport en commun-là soit efficace, ça nous permettrait de se déplacer plus aisément si on habite un peu plus loin que la ville. Parce qu'évidemment, le fait que le prix des propriétés a augmenté considérablement ces dernières années, fait en sorte que les gens se sont éloignés de la ville principale qui est Montréal, habitent les couronnes. S'éloignent de plus en plus, surtout quand on fonde des familles. Hein, ben, les Français souvent arrivent sur le plateau Mont-Royal, là, c'est cliché, là, mais
oui,
Mont-Royal, Rosemont, ces secteurs-là. Ensuite, bon, songent à fonder une famille, vont peut-être faire comme bien des Montréalais, s'en aller à Longueuil, donc dans les banlieues, Laval, et c'est là que tout à coup, le véhicule devient parfois plus pertinent pour plusieurs.
Ouais, et puis sachez aussi que dès que vous vous éloignez et que vous devez prendre le véhicule pour venir travailler, puisque les transports en commun c'est quand même encore pas super, notamment il y a pas forcément une offre pléthorique et les interconnexions de mon point de vue sont quand même très perfectibles quand elles existent. Mais quand en plus voilà vous êtes à l'extérieur de Montréal et que vous devez prendre votre véhicule pour venir, je vous rappelle que Montréal est une île. Ce qui veut dire qu'il faut prendre des ponts, qu'il n'y en a pas forcément un tous les 3 mètres non plus, donc on est nombreux sur les ponts et que c'est un joyeux bordel tous les matins. Voilà.
Ah, il faut être patient, mais sais-tu quoi, Jean-Michel? La circulation automobile en ville à Montréal est devenue un défi incroyable. J'habite, pour vous donner une idée, à 7 kilomètres du travail, 8 kilomètres, donc assez proche du travail. Mais une matinée comme celle d'aujourd'hui, là, ça m'a pris 45 minutes m'en venir au travail.
Punaise.
En raison de la congestion sur la route, le déneigement aujourd'hui. Bon, faut dire qu'il y a quand même une bonne tempête là, pour vous situer dans le temps. On est en hiver en ce moment, donc il y a de la neige. 45 minutes et un de mes collègues qui habite Longueuil, qui est de l'autre côté du pont, donc qui est en banlieue, ça lui aura probablement pris 15 minutes ce matin. Donc, parfois, même si on habite sur la rive sud, la congestion est telle à Montréal. Évidemment, il y a aussi le fait qu'on veut encourager les gens à prendre du transport actif. L'idéal, ce serait que ce transport actif-là permette à tout le monde de se rendre, mais c'est pas tout le monde qui habite à proximité d'un métro ou d'un arrêt de bus.
Ouais, c'est ça. Puis, sinon, vous pouvez aussi essayer le vélo, mais c'est vrai que par les temps qui tirent,
Il y en a, hein.
Oui, il y en a toujours.
Il y en a.
Même des gens qui font leur jogging. Donc,
Le jogging, c'est agréable l'hiver. Ça, au Québec, c'est un must.
Quand je disais tout à l'heure que je suis en phase de québécotisation intense, je suis pas encore arrivé à ce niveau-là. À moins 20,
non. Une bonne paire de chaussures, des crampons jardin botanique, là, c'est magnifique l'hiver, là, avec les marmottes, les écureuils.
Les endroits sont magnifiques. C'est juste courir quand il fait moins de 10 degrés, c'est assez compliqué.
C'est chaud moins 10, hein.
Oui, le pire, j'en rigole souvent, et d'ailleurs, l'émission s'appelle Fais-tu frette, mais le froid est tellement différent. Je me suis fait la réflexion l'autre jour, parce qu'effectivement, on est en plein hiver. Je crois qu'il devait faire moins 8, moins 9. Je suis sorti, j'ai même pas pensé à fermer ma veste, ça allait bien. Franchement, ça allait bien. Tranquille. Et puis il y a eu un petit redout. Il faisait moins dans la journée entre moins 1 et 2 degrés, sauf que l'humidité est arrivée avec Et à 2 degrés, eh ben, j'avais carrément froid. Et là, j'oubliais pas de fermer mon manteau. Donc, c'est vrai que le froid, en général, c'est un froid très sec. Globalement, c'est assez supportable. Franchement, en dessous moins 10, quand on commence à taper les moins 15, moins 20, là, ça nous saisit quand même un petit peu, hein. Mais voilà.
Moi, j'irai pas. Et on a eu un janvier très froid.
Voilà. Ah oui, oui, oui. Pas très neigeux, mais très froid.
Voilà.
Pour revenir aux considérations économiques, l'une des autres choses qui surprennent, alors, pas qu'au Québec, mais sur le continent américain, c'est quand on arrive, on a des prix. Alors, nous, bêtement, on se dit, il y a un truc à 4 dollars, je vais préparer ma petite monnaie, je sors mes 4 dollars, et on arrive à la caisse et on nous dit, 4,60 $. Les prix sont hors taxe.
Voilà. Alors, il faut toujours prévoir un 15% à peu près de plus que ce que vous voyez, mais il y a des exceptions. Alors, le prix des aliments, par exemple, en fait, des aliments de base qui ne sont pas transformés, il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe qui s'applique. Donc, si vous voyez que vos bananes vous coûtent 2 $, ça vous coûtera vraiment 2 $. Mais si les bananes sont en purée et qu'il y a du sucre ajouté, à ce moment-là, vous devez payer les taxes. Vous devez payer 2,30 $. Même chose quand vous allez à la SAQ, qui est l'équivalent du petit Nicolas. Vous allez acheter une bouteille de vin. À la SAQ, les prix sont affichés avec les taxes comprises. Donc, si la bouteille de vin est 13 $, à ce moment-là, vous allez payer vraiment le 13 $. Mais sachez que vous êtes mieux d'en ramener de France parce que le 13 $, c'est à peu près 2 € en France. alors, on paye le vin, ça, c'est un des aspects. Hein, on paye notre alcool plus cher parce qu'elle est cet alcool est surtaxé par les gouvernements. Mais oui, c'est une des particularités au Québec. Les prix qui sont affichés, ce sont pas nécessairement les prix que vous allez payer. Lorsque vous allez au restaurant, vous avez les taxes et vous avez aussi le pourboire qui s'ajoute.
Alors, c'était là, la question suivante.
Il faut prévoir son portefeuille parce que vous avez un 15% de taxes et à cela s'ajoute un 15% de pourboire. Mais souvent, le 15% du pourboire, c'est le 15% de la facture plus des taxes. Donc, vous avez comme un 35-40% de plus à ajouter.
Et franchement, les premières fois, on se fait tout savoir. On arrive devant un resto, on voit la carte, on fait « Oh putain, ça a l'air bien !» C'est vrai qu'on bouffe pas mal en plus. Ça a l'air bien. « Ah, puis c'est pas très cher, c'est cool. Allez, on y va !» Voilà, bon, on le fait deux fois. Au bout d'un moment, on a compris, on arrête. Enfin, on continue à aller au restaurant, mais on fait un peu plus attention, quoi.
Et tu sais, je pense que c'est un peu moins vrai parce que les gens qui viennent de l'extérieur comprennent ce qui se passe. Mais dans les premiers temps, il y a ça une quinzaine d'années, quand je sortais au restaurant avec la famille de ma conjointe qui est française, souvent le serveur avant même le repas ou au moment de donner la facture, le précisait et parfois de façon cavalière, disait à la famille de ma conjointe, famille française, vous savez, monsieur, ici, le pourboire n'est pas inclus, c'est 15%. Et dans certains cas, ce qui est illégal, les restaurants, lorsqu'ils voient qu'il y a des Français qui sont attablés, vont inclure le pourboire sur la facture. Et c'est parce qu'en se disant, peut-être que ces gens-là sont pas au courant que la coutume veut que quand on apprécie le service, on inclut le 15% de pourboire. Alors, c'est une discrimination qui parfois est...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et mise en pratique.
Ouais, sachant de ce qu'on m'a dit en plus pour dans les pratiques, tu vas me dire si je me gourre, quand on est content du service, c'est 15%.
Oui.
Quand on est très content du service, on peut aller au-dessus. Souvent, on nous propose des choix et ça peut aller à 18%, 20%. Et si franchement, on n'est pas content, c'est 12%. Mais c'est en gros, il faut avoir été frappé par quelqu'un pour dire non, je ne paierai pas de pourboire. C'est voilà, un mauvais service, c'est 12% quand même parce qu'il faut quand même payer. Sinon, la personne n'a pas de salaire.
Exactement. Non, c'est le salaire, par exemple, d'un serveur, le salaire minimum d'un serveur qui est payé aussi avec pourboire est vraiment, c'est infime. Donc, ils ont besoin de ces pourboires-là pour gagner leur vie. Parfois, les pourboires sont répartis aussi avec les gens en cuisine. Donc, effectivement, moi, oui. Ça m'est arrivé, tu vois, je pense que ça m'est arrivé une fois que j'ai pas laissé de pourboire. J'avais 16 ans dans un restaurant et c'est parce que le propriétaire du restaurant avait refusé un certificat cadeau que j'avais reçu sous un prétexte qui m'apparaissait complètement ridicule parce que il me disait qu'aujourd'hui il voulait pas le prendre parce que la maison mère voulait pas le rembourser tout ça. Je dis, c'est pas mon problème. Il avait pris mon téléphone, il l'avait lancé. Je pense qu'il était peut-être sous l'effet de quelque chose là. Et c'est la seule fois de mémoire que j'ai laissé aucun pourboire. Sinon ça fait partie du rituel.
Ouais, ça fait partie du truc. Mais je reviens juste sur les prix hors taxes, parce que moi, j'ai ma petite. J'aimerais savoir quel est ton avis, toi, sur pourquoi est-ce que les prix sont hors taxes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière comme ça, qui fait d'ailleurs un peu le lien avec ce qu'on disait en début, c'est-à-dire que on valorise la valeur ajoutée ou le travail de la personne qui nous vend le service ou qui nous vend le produit. Les taxes, entre guillemets, c'est pas son affaire. Ok, il va falloir les payer, mais c'est pas son affaire. On doit savoir combien lui valorise son travail. Donc, il y a un côté respectueux du travail de l'autre, de reconnaissance du tiers avec qui on fait affaire, en se disant non, ça, les taxes, c'est pas ses oignons, c'est pas sa faute. On les met de côté. Et je trouve que j'ai mis du temps à essayer d'élaborer une philosophie tellement ça me semble pas logique hein, de pas payer les taxes. Voilà. Mais je me suis dit, ça doit être ça. Ça doit être le côté. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben écoute, je n'avais jamais réfléchi à ça parce que ayant toujours vécu dans un pays où les taxes ne sont pas affichées, mais je trouve que tu marques un point. Effectivement, il y a clairement là une façon de dire ben ce commerçant là en vendant sa pâte à dents, son dentifrice à 3$ ou encore sa poutine hein, à 13$ puis n'affichant pas les taxes, on est en train de dire ces gens-là vous chargent tant et c'est devenu un réflexe, on sait que le gouvernement, lui, vient nous chercher 15% surtout. Donc oui, c'est une façon de dire, voici le prix que vous charge le commerçant. Puis en même temps, c'est pour bien des gens, même si on sait qu'on doit payer 15%, quand tu vois un téléviseur à 1000$, ben tu dis, ah, il m'a coûté 1000$. Mais non, en fait, il m'a coûté 1150. Mais dans ta tête, c'est plutôt 1000$. Alors, tu sais,
c'est sûr que c'est moi qui ai fait une grande partie de ma carrière dans la publicité, dans le marketing. On est très content de pouvoir mettre des prix psychologiques qui marquent un peu et facturer plus au final. Voilà. Même si, voilà, c'est assez malin. Mais, c'est vrai.
Et il y a une dimension de transparence. Tu sais, bon, on sait combien ça coûte, comme on sait par exemple quand il y a des écofrais qui sont ajoutés. Ce qui est moins transparent, par contre, c'est si on revient rapidement à l'essence, c'est que sur le litre d'essence, il y a une pléthore de taxes qui sont ajoutées, des taxes environnementales, des taxes d'assises. Les gouvernements prélèvent énormément d'argent, mais ça, on s'en rend pas trop compte, puis on a tendance à pointer du doigt l'industrie pétrolière puis la station-service. Mais si on affichait clairement, là, à chaque fois qu'on met de l'essence dans son véhicule, combien de sur le $50 que j'ai payé, combien s'en va dans les poches du gouvernement? Là, peut-être qu'on aurait une idée plus claire de
combien
s'en va l'argent.
Si tu as l'info, je veux bien parce que moi, en fait, quand on parlait tout à l'heure de cette variation très forte du prix de l'essence qu'il peut y avoir ici, donc elle a doublé depuis qu'on est arrivé, je me suis dit que moi, en France, d'après mes infos, grosso modo, sur un litre d'essence, 80% ou un peu plus de 80% part en taxes diverses et variées. Effectivement, on est particulièrement créatif quand il faut faire des taxes. On a tout un champ lexical merveilleux pour ça, mais un peu plus de 80%. Et je me suis dit que c'est parce que les taxes sont excessivement élevées que, paradoxalement, quand il y a des fortes variations du prix du baril, ça servait peut-être un petit peu d'amortisseur. Et ce qui fait que, oui, il y a une variation du prix aussi en France, mais on n'est pas passé du simple au double non plus en 18 mois.
Alors, tu vois, à Montréal, dans la région de Montréal, la part des taxes sur le prix de l'essence, c'est à peu près 42%. Puis dans les autres régions du Québec, où l'essence coûte moins cher qu'à Montréal, c'est à peu près 39% du prix qui s'en va soit à la ville, au fédéral ou au provincial. Donc, c'est quand même...
Alors, je savais qu'il y avait les taxes provinciales et les taxes fédérales, Et donc, pour l'essence, il y a aussi des taxes
à Montréal, ouais, à Montréal aussi. Alors, tout le monde pige dans la taxe. C'est prélevé de façon différente, mais tout le monde en bénéficie.
Ah, j'espère que personne écoute à la mairie de Paris, sinon ils vont choper l'idée. C'est terrible. Ça va être terrible. Quand on parle du quotidien, une autre chose est, qui je pense est aussi symptomatique du rapport des Québécois au monde de l'entreprise, aux affaires et à l'argent, c'est le crédit. Le crédit, la carte de crédit et l'historique de crédit. Moi, je suis arrivé ici, dans ce pays, en me disant un bon client, entre guillemets, pour une banque, c'est quelqu'un qui, comme moi, même si j'ai pas toujours réussi, a passé sa vie à essayer de fuir les crédits au maximum, d'en avoir le moins possible et d'arriver avec, si ce n'est un peu d'argent sur son compte en banque, en tout cas pas trop de dettes. Et en arrivant ici, quel que soit l'état de votre portefeuille et de votre compte en banque, on vous dit mais non, on peut pas vous donner une carte de crédit avec une marge de crédit parce que vous n'avez pas d'historique de crédit. Mais j'ai pas d'historique de crédit. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et non, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux nous expliquer comment
ça marche? Prenons deux personnes, ok, deux profils. On a un profil de quelqu'un qui n'a aucune dette, qui a même un patrimoine bien garni, mais qui ne s'est jamais endetté, qui n'a pas de prêt hypothécaire, qui n'a pas de carte de crédit ou qui n'utilise pas ses cartes de crédit, qui n'a pas de prêt auto non plus pour la voiture, versus quelqu'un qui a moins d'argent, qui est endetté, qui a un prêt hypothécaire, un prêt auto. Puis cette personne-là paie chaque mois le montant, les soldes qui sont dus. Ben, cette personne-là, endettée, va avoir un meilleur accès au capital, va avoir un meilleur accès, va être considéré comme quelqu'un qui a un meilleur crédit que la personne qui n'a aucune dette. Et ça, c'est parce que les banques savent que cette personne-là a des dettes, mais qu'elle est toujours assidue et qu'elle paye sa juste part à chaque mois. Et ce qui m'a étonné, moi-même, c'est lorsque j'ai acheté ma première propriété, évidemment, j'avais un bon profil de crédit, mais quelques mois après avoir contracté un prêt hypothécaire, j'ai vu que mon score de crédit, donc ma note de crédit, avait augmenté de façon importante, de plusieurs points, même si j'avais l'ajout d'un prêt hypothécaire important. Et ça, c'est tout simplement parce que, justement, le crédit est valorisé. Un autre exemple, lorsque j'ai acheté, je devais acheter un véhicule, je me suis dit, est-ce que je paye le véhicule en argent ou je contracte un prêt et je rembourse ce prêt-là pour mon véhicule? Et à la banque, mon conseiller m'a dit, contracte un prêt. Tu vas avoir un prêt à 3% d'intérêt, 2% d'intérêt, et tu vas pouvoir faire autre chose avec l'argent que tu aurais mis sur le véhicule. Et de là, si quelqu'un au Québec a les moyens de s'endetter, le fait intelligemment, évite le surendettement et est capable de payer ses factures à temps, c'est valorisé et ça va permettre à cette personne-là d'aller se bâtir un historique de crédit qui lui permettra éventuellement d'accéder à un prêt hypothécaire ou à un prêt de plus grande envergure. C'est pour ça que c'est important rapidement au Québec d'avoir une carte de crédit ou de contracter des prêts. Tu vois, comme moi, une des choses que j'ai fait cette année, je n'ai jamais fait ça de ma vie, j'utilise ma carte de crédit pour 100% ou 99% de mes achats. Donc, je n'utilise que ma carte de crédit parce qu'on a deux choix, carte débit, carte de crédit. Au Québec, beaucoup de gens utilisent seulement la carte débit en se disant « je veux éviter le crédit ». Moi, ce que je fais, j'utilise 100% de ma carte de crédit. J'ai magasiné ma carte de crédit pour avoir un cashback, donc un retour d'un certain pourcentage de mes achats. Et ça me permet d'aller chercher de l'argent que je n'avais pas autrement qu'en utilisant ma carte débit. Et ça, c'est la première fois cette année que je le fais. J'ai fait une expérience, puis jusqu'à présent, même si c'est une carte de crédit qui me coûte un certain montant par année, j'en vois déjà des résultats positifs.
Et c'est vrai, hein, c'est ça. Au final, un bon client pour une banque au Québec, c'est un client endetté, mais qui paye ses dettes, qui rembourse ses traites tous les mois. C'est tout ce qu'on lui demande.
Et précisons qu'il y a une différence entre la bonne dette, ce qu'on pourrait qualifier de bonne dette, et de mauvaise dette. Alors, si vous êtes quelqu'un qui vous a acheté, je sais pas moi, des consoles de jeux, des ordinateurs, qui vous lancez dans de folles dépenses, puis que vous mettez 20 000 $ sur une carte de crédit en l'espace de 2 semaines, là, c'est pas un genre de prêt qui va nécessairement avoir un impact très positif sur votre cote de crédit. Par contre, si vous avez un prêt hypothécaire, un prêt auto, une marge de crédit et que vous n'en abusez pas, si vous avez une limite sur votre carte de crédit de 10 000 $, ben essayez de garder les dépenses en bas de 5 000 $, de ne pas trop approcher de la limite de votre carte de crédit. Si dans ce cas-là, vous remboursez tout le solde de votre carte de crédit chaque mois, que vous faites une utilisation réfléchie du crédit, à ce moment-là, ça va être clairement à votre avantage. Et il faut le faire tôt. Parce que, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un, d'un jeune qui a un téléphone portable, qu'il paye sa facture chaque mois avec sa carte de crédit, et puis que là, pendant quelques mois, il oublie de la payer ou il la paye en retard et il néglige ça en se disant que ça n'aura pas d'impact. Et puis que 2-3 ans plus tard, ce jeune-là se dit « Ah, ben je vais aller à la banque parce que j'ai besoin d'un prêt hypothécaire pour acheter une propriété, une résidence. » Et il se voit refuser le prêt parce qu'on lui dit « Ben, votre cote de crédit n'est pas suffisante, votre historique de crédit est entaché. » Là, la personne se dit « Ben, pourquoi? J'ai pas de prêt. » Ah ben là, en faisant des recherches, je peux constater que les factures en retard que j'ai payées pour mon téléphone portable ou un autre prêt, ça a eu un impact négatif sur ma cote de crédit. Puis c'est pour ça que je recommande aux gens qui nous écoutent, si vous êtes au Québec, chaque année, et c'est dans la loi canadienne, vous pouvez demander aux grandes agences de crédit que sont TransUnion et Equifax, qui sont les gardiens de votre historique de crédit, de vous envoyer votre rapport de crédit. Votre rapport, vous pouvez le commander gratuitement une fois par année, c'est dans la loi. Puis vous appelez les agences de crédit directement, vous leur demandez parce que eux, si vous passez par le web, vont vous offrir des services à 10-15 $ par mois. C'est totalement inutile. Vous les appelez, vous leur dites, écoutez, c'est dans la loi, je veux mon historique de crédit. Ils vous envoient ça par la poste ou par mail. Et là, parfois, vous allez avoir des surprises. Vous allez vous dire, oh, j'ai une vieille carte de crédit qui traîne ou j'ai... comment ça? Parfois, il y en a qui ont des mauvaises surprises. Ils s'aperçoivent qu'ils ont été victimes d'un vol d'identité, qu'il y a des gens qui ont contracté des prêts à leur nom. Et ça, c'est arrivé souvent au cours des 2 dernières années. Donc, une bonne hygiène financière passe par la vérification de son dossier de crédit au moins une fois par année, sinon plus souvent, pour s'assurer qu'on n'est pas victime d'un vol d'identité et que tout est en règle.
Et c'est vraiment, là on vient de parler pour ceux qui sont déjà au Québec,
oui.
Et effectivement je vois qu'on... Très souvent, on incite les jeunes très tôt. D'ailleurs, il y a des bouquins, il y a des livres, il y a des émissions, il y a des balados, il y a des podcasts là-dessus pour faire une éducation financière, de planification financière pour les jeunes. Et on leur apprend tout ça, justement. Par contre, pour ceux qui viennent, moi, en l'occurrence, c'était un âge déjà un peu avancé quand même. Mais pour ceux qui viennent et tout d'un autre pays comme la France, où on n'a pas forcément les cartes de crédit et les cartes de débit, c'est-à-dire qu'on appelle à peu près tout carte de crédit, alors qu'en fait, à 95%, on n'a que des cartes de débit, c'est-à-dire que l'argent est pris directement sur notre compte. Au mieux, c'est du débit différé, c'est qu'il est pris à la fin, à la fin du mois. Là, il y a vraiment ces deux cartes différentes, la carte de débit, oui. Certes, mais la carte de crédit, c'est à peu près comme une carte de débit différé, à une différence près, si vous remboursez pas à la fin du mois, si vous faites pas la démarche volontaire, parce qu'en plus, c'est même pas automatique. Donc, c'est la démarche volontaire d'aller dire, je rembourse ma carte de crédit. Ben là, ça devient des intérêts, ça passe en vrai crédit, en dette, et des intérêts assez colossaux, effectivement. Hein.
10 à 20%, ouais, ouais des intérêts. Ouais, et je pense que quelqu'un qui fait le choix du Québec va aussi faire le choix d'une fiscalité qui peut être très avantageuse. Tu sais, je recommanderais à quelqu'un qui s'intéresse au Québec puis qui a des plans, tu sais, de voir les variétés de possibilités. Il y a des différents comptes bancaires qui permettent d'économiser à l'abri de l'impôt.
Il y a le CELI.
Il y a des régimes épargne-études éventuellement pour les enfants qui sont très avantageux où le gouvernement offre un rendement de 35% garanti sur 2 500 $ qui sont investis par année parce que le gouvernement met 700 $. Donc, tu as un paquet de ce qu'on appelle au Québec les comptes enregistrés que les gens doivent connaître, que bien des Québécois ne connaissent pas eux-mêmes ou ne connaissent pas dans tous les détails, mais qui permettent de bâtir un patrimoine rapidement et de le faire dès qu'on est jeune.
Et de construire ce fameux historique de crédit.
Oui.
Qui est clé, hein, parce qu'on, j'y reviens, mais il revient lui-même très souvent dans le quotidien. J'ai été surpris, par exemple, lorsque j'ai magasiné mes assurances pour les voitures et tout. On m'a dit, ah, mais votre historique de crédit est pas terrible. Normal, je venais juste d'arriver, ça faisait à peu près 2 semaines que j'étais là. Donc, mon historique de crédit, il était à 0. Voilà.
Que ce soit pour un véhicule, que ce soit pour un prêt que vous allez contracter, vous voulez aller, vous louer un appartement, il est possible que le propriétaire en fasse la demande. Donc oui, c'est un peu comme la passe sanitaire, mais ça existait avant la pandémie, le dossier de crédit.
C'est ça, il n'y avait pas le QR code, mais il pourrait le mettre.
Non. Et récemment, tu vois, c'est drôle, Jean-Michel, parce que c'était la Saint-Valentin, puis je parlais à mon émission du tabou des finances puis des mauvaises surprises parfois qu'un partenaire peut nous cacher. Je dis, ben, si vous voulez en avoir le cœur net sur l'identité de l'élu de votre cœur, demandez-lui son historique de crédit, comme ça vous allez être certain que ça peut se transformer en belle relation. Si vous avez des doutes, alors là, demandez-lui son dossier de crédit, vous allez savoir si cette personne-là est vraiment celle qu'elle prétend être.
J'imagine beaucoup le dîner romantique en disant
hey!
« Dis-moi, tu pourrais me montrer ton historique de crédit, s'il te plaît ?»
Ça éviterait des mauvaises surprises, garantie.
Ouais, mon intérêt à avoir préparé les fleurs après, parce que
ouais.
Moi, j'aurais pas tenté le coup avec la mienne, hein, franchement. Ça serait pas passé comme ça. Ceci dit, c'est une des autres différences. J'ai l'impression qu'ici, l'indépendance financière des conjoints est beaucoup plus ancrée dans les habitudes. Chacun c'est parfois une des dépenses communes, mais voilà.
Il y a deux principales façons, évidemment, de partager l'argent dans le couple. En fait, trois. Il y a les gens qui se disent, nous, c'est moitié-moitié. Hein, 50-50. Ça, c'est l'approche 50-50. Donc, le loyer coûte 1 200 $. Ben, c'est 600 $ chaque. Il y a l'approche pro-rata, qui est, moi, je gagne un petit peu plus que le conjoint ou la conjointe, alors je vais payer un petit peu plus pour chacune des dépenses. Et il y a l'approche compte-conjoint, où vous avez un compte bancaire pour les deux membres du couple. Cette approche-là, ça était dominante pendant des décennies au Québec. Je prends l'exemple de mes parents, c'est un compte conjoint, tout ça. Mais aujourd'hui, la plus jeune génération, même lorsqu'on a des enfants, de plus en plus, c'est l'approche pro-rata. Donc, un membre du couple gagne un peu plus, va payer un peu plus pour les dépenses.
Ouais, c'est ce qui m'a semblé, parce qu'effectivement, moi, j'ai, comme tes parents, j'ai toujours connu le côté compte conjoint. Voilà, on s'est jamais trop posé la question à la maison. On avait un seul compte, chacun sa carte sur le même compte, et puis basta cosy. Et quand on est arrivé ici, qu'on a rencontré notre banquier, bon, on s'est dit, on va faire exactement la même chose. Et là, il nous a regardé avec un petit air interloqué en disant, vous êtes sûr? Vous voulez pas que je vous fasse un petit compte chacun quand même, histoire de voilà. On a senti que c'était pas dans les habitudes, et effectivement, pour en avoir discuté depuis avec des amis et tout, ça semble parfaitement logique pour la plupart des gens que j'ai rencontrés jusqu'ici de se dire voilà, ok, on est un couple, ok, on a une communauté de vie, communauté de projet, des enfants, une maison, tout ce qu'on veut, mais pour ce qui est de l'argent, on garde chacun notre indépendance et aussi notre responsabilité propre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le côté sympa, c'est qu'on ne fait pas forcément porter à l'autre le fruit de voilà ce qui peut peut-être éviter d'avoir à demander un historique de crédit lors du premier rendez-vous.
Voilà. Et je pense qu'il y a quand même des avantages à avoir un compte conjoint et des comptes séparés quand vous arrivez au Québec, parce que comme ça, bon, vous pouvez dire dans le pot commun, on met un montant d'argent, mais chacun de notre côté pour nos dépenses ou selon nos goûts, faire un cadeau, une surprise, on a notre compte quand même pour faire les dépenses.
Et j'en ai parlé la semaine dernière avec Marie-Ève Lavoie qui est notaire. C'est vrai que moi, c'est l'un des premiers conseils qu'on m'a donné ici, c'était pas mon banquier pour le coup, mais c'était des amis. Ils m'ont dit, attention, faites attention, assurez-vous d'avoir au moins chacun, même si vous mettez quasiment rien dessus, chacun un compte personnel, parce que si par malheur il devait vous arriver quelque chose, sachez que l'un des deux décède, le compte va être automatiquement gelé jusqu'à ce qu'une décision ait pu être prise et tout. C'est minutes. Alors, ce que Marie-Ève me disait, c'est que ça prend pas non plus 6 mois. Ceci étant dit, si c'est le seul compte qu'on a et qu'il est bloqué pendant 15 jours,
C'est un bon point. Puis, en fait, probablement que tu l'as abordé avec elle, mais la nécessité aussi rapidement d'avoir un dossier en règle avec un testament, puis toutes les procurations, tous ces papiers-là, je pense qu'il faut pas tarder avant de les avoir, parce que ça va faciliter, advenant qu'il se passe quelque chose de malheureux, la vie pour tous les membres de l'entourage.
Ouais, c'est sûr.
Surtout quand on a des enfants.
Oui, bah oui, et on aurait bien tort de pas avoir des enfants ici, parce que franchement le pays s'y prête vraiment bien.
Oui.
Voilà, ils ont de quoi s'aérer, ils ont de quoi voyager sans forcément partir très très loin et rester à proximité des parents, mais avec une certaine liberté, c'est pas mal comme ça. C'est
à une heure de Montréal, les lacs, les Laurentides, la Naudière, ouais. Et ça c'est un des je veux dire, en France aussi, les panoramas sont magnifiques, puis en Europe, c'est autre chose. Mais ce qui est un des avantages du Québec, c'est que, puis un peu comme aux États-Unis, c'est qu'à quelques heures de route, à très peu de frais, on peut être complètement dépaysé. On peut aller dans le, tu sais, du nord au sud, puis le faire en voiture, puis voir des paysages. Tu sais, aller aux États-Unis, on est à quelques heures de New York. Donc, quand on parle d'économie, là, quelqu'un veut passer des vacances, être dépaysé. Puis je pense que la pandémie, ça a été l'occasion pour bien des Québécois, ben, comme partout, là, de redécouvrir leur territoire et de l'aimer encore plus et de voir que finalement, on aura passé d'une vie pour visiter toutes les régions du Québec, tout ce qu'elles ont à offrir. Et ça nous permet d'économiser sur les vacances, d'être dépaysé rapidement.
Ouais, et alors c'est sûr, bon, c'est pas forcément le sujet, mais pour le peu que j'ai pu en faire jusqu'ici, alors bah, c'est vrai que je dis souvent que moi, quand même, la France globalement au niveau des paysages et tout, on est pourri gâté. Enfin, on est pourri gâté sur plein de trucs, mais les paysages sont absolument magnifiques et tout ça et tout. Ceci dit, ici, ce qui m'a marqué, c'est la rapidité avec laquelle on va changer d'univers. Des fois, il y a des petites incongruité. Par exemple, voilà, autour de Montréal, c'est tout plat. Puis tout d'un coup, vous allez avoir un mont, une montagne. Du coup, on fait 12 pistes de ski dessus, ce qui me permet, moi qui suis en banlieue sud, sur la rive sud, de donc vraiment tout près de Montréal, de pouvoir aller skier à 25 minutes de chez moi.
Ouais.
C'est vrai qu'on change de paysage et d'univers très très vite, très rapidement. Et du coup, c'est très accessible.
Et je te donne un bon exemple. Moi, quand je vais à la campagne, on a une maison à la campagne, je sais qu'à une demi-heure de Montréal, je monte une côte en voiture et à partir de là, c'est toujours l'endroit où la température baisse et où il y a de la neige avant toutes les autres régions. À partir de cette ville-là, à une demi-heure de Montréal, je sais qu'à l'automne, s'il y a des feuilles à Montréal, qui c'est un peu frisquet, je sais qu'à cet endroit-là, il y aura déjà de la neige, il fera déjà froid et je pourrai déjà faire de la raquette ou du ski de fond.
C'est assez génial, le Québec. Pierre-Olivier, au cours de l'émission, tu nous as déjà donné pas mal de conseils pour devenir à notre tour des Québécus économicus, comme je disais. Pour synthétiser, tu nous as dit, bon, évidemment, quand on arrive ou si on doit immigrer, en général, on est déjà adulte, mais si on a des enfants avec nous, très vite les initier à la gestion, à la bonne gestion de l'argent du quotidien. Mm-hmm. Tu nous as dit investir dans des fonds réglementés, c'est ça?
Dans des comptes enregistrés. Alors, pour acheter des comptes enregistrés, là, il faudrait voir à qui ça s'applique et comment lorsqu'on immigre, mais se familiariser avec les comptes enregistrés et avec la fiscalité du Québec, surtout si vous êtes là à long terme. Il y a des façons d'accumuler de l'argent à l'abri de l'impôt légalement. On a des paradis fiscaux légaux au Québec qui sont même qui font l'objet de promotions des gouvernements pour vous inciter à épargner. Avoir une bonne connaissance ou du moins une connaissance de base de la façon dont fonctionne le système bancaire, c'est pas sorcier, mais ça va vous permettre au fil des ans de faire croître votre patrimoine beaucoup plus rapidement que si vous n'aviez pas pris les quelques minutes pour bien partir au Québec avec les comptes bancaires appropriés.
Et c'est important. Et alors moi, c'est pas un conseil, mais une expérience pour ceux qui arrivent au quotidien, c'est lâcher l'affaire. C'est-à-dire que Oui, les trois premières fois, quand on arrive dans un magasin et qu'on nous rajoute les 15%, ça nous fatigue. Donc, les trois fois suivantes, on essaye de calculer les 15%. Et vous savez quoi? À un moment donné, on lâche l'affaire et on laisse faire le commerçant qui fait ça très bien. Voilà. Et on lui fait confiance. Et c'est vachement reposant, en fait, de faire confiance aux gens.
Et au Québec, généralement, on peut faire confiance aux gens.
Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai. Et voilà. Il y a le côté positif. Et on l'a pas dit. Mais un autre truc qui m'a vraiment beaucoup plu quand je magasine, c'est que s'il y a quoi que ce soit avec mon produit, que je l'ai ouvert, que j'ai explosé, je le ramène, on me demande rien, enfin dans la quasi-totalité des cas en tout cas, hein, on me demande rien, mais bien sûr, on vous rembourse, monsieur. Ouais, c'est...
Et c'est pas une loi, hein, parce qu'il y a bien des gens qui pensent que au Québec, parce que... je suis pas satisfait d'un article, je peux le ramener et que le commerçant est obligé de le reprendre à l'intérieur d'une certaine période de temps, c'est pas vrai. Par contre, la majorité des politiques de remboursement sont très souples, au point où je me souviens, il y a 10 ans, donc ça c'est même avant que je fasse de la télé, Jean-Michel, mon fils avait, le fils d'une de mes amies avait lancé une balle sur mon nouveau téléviseur. Et à l'époque, c'était un beau téléviseur 40 pouces, 45 pouces. Ça m'avait coûté une fortune. Et j'ai ramené le téléviseur où je l'avais acheté en disant, écoutez, il y a un bris, est-ce que c'est possible de le réparer? Et je me souviens, il m'avait remboursé le téléviseur en me disant, non, il n'y a pas de souci. Alors bon.
Excusez-nous.
Je suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va arriver, mais j'ai été chanceux ce coup-là. Mais, oui, les commerçants, généralement, ont des bonnes politiques de remboursement.
Mais dans les autres trucs et astuces, alors je sais pas s'il faut le dire, tu me diras après, éventuellement, je couperai au montage, mais plusieurs personnes m'ont dit que quand ils avaient besoin d'un outil ou de quelque chose d'un peu onéreux, un peu dispendieux, comment dire, qu'ils en avaient besoin là, mais qu'ils en avaient pas besoin après, ça leur arrivait parfois d'aller l'acheter, d'ouvrir le paquet, de l'utiliser, et puis dire qu'ils en... Non, finalement, non, ça me plaît pas.
Est-ce que tu penses à quelqu'un, par exemple, qui irait faire du camping, qui achèterait une tente chez Walmart et qui le ramènerait après un week-end? Non, je pense qu'il y a jamais personne qui a fait ça.
Non, jamais, jamais. Non. Bienvenue au Québec, les amis. Pierre-Olivier, c'était une heure ensemble, c'était absolument super. Je te remercie énormément. Parce qu'en plus, tu as pris une heure de ton temps à la fin d'une longue journée. Voilà, ceux qui écoutent.
Ah, j'ai bien apprécié, Jean-Michel. Passé vite.
Franchement, c'était absolument super. On a appris plein de trucs, plein de conseils. Si vous n'avez pas tout noté, je vais tout vous mettre en commentaire. Les comptes réglementés, les astuces, où est-ce qu'il faut demander votre historique de crédit pour bien réussir votre premier dîner en amoureux. Elle m'a bien plu, celle-là. Et puis, à très bientôt de l'autre côté du poste, hein, à vos affaires, tous les soirs sur TVA. Pour ceux qui ont la chance d'avoir la télévision québécoise, 30 minutes, sympa et intéressante.
Un gros merci.
Un gros merci à toi, à bientôt.
À plus.
Ciao. Et voilà. Fais-tu fret, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible... Inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancée très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh bien, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel... Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Faitufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, faitufrette, à commercial, Ah oui, 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 j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufret, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.